RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
La victoire d'Alexis Vuillermoz sur la 8e étape du Tour de France. Première victoire française sur cette édition 2015 et il s'impose devant tous les costauds. Appelez-nous au 32-16 ou alors vous avez le hashtag RMC Live pour poser toutes vos questions dans quelques instants à Thierry Bourguignon et Luc Leblanc de la Dream Team RMC Sport. Avant cela, juste un rappel, Serena Williams qui gagne son 21e tournoi d'un grand chelem. Elle gagne Wimbledon en battant 2-7, 6-4, 6-4 l'Espagnole Muguruza en finale. Et puis 9 secondes, 92 centièmes sur 100 mètres pour Jimmy Vico au championnat de France à Villeneuve-d'Ascq devant Christophe Lemaitre qui fait 10-07. On en reparle à 20h30 avec Fix de Châteaufort. Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, toujours là. Rebonsoir messieurs.
Rebonsoir Martial.
Et le 32-16 évidemment. Et le hashtag RMC Live pour poser toutes vos questions. Donc juste avant de prendre Philippe au 32-16, je vais rappeler quand même rapidement le classement de l'étape avec la victoire d'Alexis Vuillermoz qui s'est imposé en s'échappant à 1 km de l'arrivée. Il gagne avec 5 secondes d'avance sur l'Irlandais Daniel Martin et 10 secondes sur le peloton de tous les favoris, quasiment tous les favoris du classement général, avec Valverde 3e, Sagan dans ce peloton. On avait Froome, on avait Quintana, on avait Contador, mais on n'avait pas Nibali qui lui a concédé 10 secondes supplémentaires sur le maillot jaune, toujours sur les épaules de Chris Froome. Thierry, Lucho, on a Philippe au 32-16. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Philippe.
Philippe, qu'est-ce que tu voulais nous parler d'Alexis Vuillermoz, évidemment.
Bah, bien entendu, oui, parce que ça fait plaisir, une belle victoire comme ça, on l'attendait. Pas forcément de lui, mais bon, voilà, c'est super. Alors, est-ce que, in fine, ça ne sous-entendrait pas que les mœurs du peloton ont agréablement évolué, éthiquement évolué, on va dire.
Pourquoi
mais
ça?
Cette victoire d'un Français dans une bosse raide, difficile, wow, devant le gratin du peloton.
Alors là, ça veut, il n'y a rien de...
C'est pas une preuve, ça, pour toi, Bourgui?
Non. Depuis quelques années, c'est vrai qu'on le dit, il y a des mœurs qui ont changé, il y a une évolution des choses, mais bon, arrêtez, quand un Français gagne, on dit, ah bah oui, ça a changé, et si on met la suspicion sur tout...
Non, mais Bourgui, l'attaque assise... dans le Ventoux 2013 de notre ami Froome qui sort un peu de nulle part, excuse-moi, ça passera jamais.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Froome m'impressionne toujours sur sa façon de pédaler en bosse, assis, en accélérant à 200 tours minute.
Oui.
C'est chose, même si Cyril Guimard dit que la meilleure façon de pédaler, c'est de tourner les jambes, faut-il encore pouvoir les tourner aussi vite et aussi longtemps? Parce que tout le monde sait faire un sprint en tournant les jambes sur 100 mètres, voire 50 mètres, 50 mètres, 100 mètres, mais un peu plus, c'est beaucoup plus compliqué. Et là-dessus, on va apprécier la victoire française de Vuillermoz, parce que on savait que c'était un puncher, il l'a montré déjà au mur de Huy, et puis au printemps, dans les classiques.
Il fait 6e de la Flèche Wallonne aussi. Hein.
Liège, Flèche, il était là. Il était toujours là, dans des arrivées un peu comme ça.
Alors, il y a quelques années, il n'y a pas un Français qui aurait pu jouer une place dans les 10 dans une arrivée comme ça.
Ça peut être aussi une question de génération.
On n'avait peut-être pas le puncher aussi. Hein.
Enfin, là, on en a plusieurs. On a Barguil, on a lui. Il y a quand même des choses qui ont l'air de bouger un peu. Là. Je sais pas, Nibali qui est un peu derrière.
Ouais, mais il y a une génération qui arrive.
Froome qui court n'importe comment.
Et qui pousse, c'est super. Mais c'est vrai. Comment?
Donc pour vous, c'est dû uniquement au progrès des Français, alors?
Bah oui. Bah oui.
Un assainissement des mœurs. Bon.
Non, mais on le dit et on le répète. Depuis 2009, 2010, il y a eu des changements. 98. Tu vois, j'avais mis 10 ans de retard. Depuis 98, pourtant ça m'a bien marqué, il y a eu des changements dans les mœurs. Il y a des pays même, on disait oui, la France par-ci et la France par-là. Moi, j'aime pas qu'on dise les Français sont plus blancs que blancs. Les mœurs sont changées, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a des contrôles qui font que il y a certaines pratiques qui se sont arrêtés, voire qui ont été proscrits. Voilà.
Lucio, qu'est-ce que t'en penses?
Bah écoute, moi je pense qu'il y a une progression nette des Français. Il y a des jeunes Français qui arrivent derrière et il y a des jeunes Français qui ne sont pas présents sur le tour et qui vont se montrer dans les prochaines années. Donc non, il y a peut-être certes un assainissement au niveau du dopage, ça c'est clair et net, mais c'est pas pour ça aussi que les Français sont devant. Je crois qu'il y a des Français qui ont des grosses qualités, notamment les jeunes qui arrivent. Donc voilà, et puis à un moment donné, il faut bien que les Français montrent le bout de leur nez un petit peu sur les grands tours. Mmh. Et c'est pas une surprise de voir Villermoz aujourd'hui remporter l'étape, ça c'est clair et net. Hein.
Et Tony Galopin, cinquième aussi.
Et bien sûr, il y a Tony qui a gagné une étape l'année dernière, qui peut peut-être encore en remporter une cette année. Il y a de quoi faire. Après, il y a Alaphilippe aussi qui est pas mal. Donc voilà, il y a qui n'est pas sur le tour, mais qui est pas mal et qui risque de montrer aussi des choses intéressantes l'année prochaine. Non, on est très contents, on est très fiers, nous les anciens, de pouvoir voir au moins les jeunes commencer à arriver sur le tour et peut-être inquiéter, je dirais, les grands leaders.
Non, mais juste pour finir, Philippe, t'es toujours là ?
Oui, je suis là toujours.
Oui, dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas un Français qui gagne au sprint pour l'instant là ? Dans ces cas-là,
c'est bien que c'est pas la même chose.
Non, mais c'est les qualités des sprinteurs. Donc, il y a des Français qui sortent du lot, mais ils ont encore un petit temps de retard par rapport aux meilleurs sprinteurs. Et là, les punchers, ben, on a découvert un super puncher et j'espère qu'on va découvrir durant le tour de super grimpeurs.
Non, mais d'accord, mais il y avait Bernard Hinault, son grand credo, c'était de dire, pendant 30 ans, les Français savent pas s'entraîner.
Ouais, mais ça, c'est
un petit peu ridicule.
Je l'aime bien, mais attends, c'est comme la semaine dernière, toute la semaine, il y a certaines personnes qui disaient que, en France, on n'avait pas d'équipe, que les Français devaient s'expatrier. Et là, de suite, il y a un Français qui gagne, c'est super et tout. Mais non, les Français savent bien s'entraîner, méthodes d'entraînement, il y a des super entraîneurs dans les équipes françaises ou étrangères. Après, il y a un peu moins de moyens pour les équipes françaises. Donc, faute de moyens, on peut pas aller chercher les super coureurs. Voilà, c'est tout. Mais faisons avec ce qu'on a et attendons un petit peu pour voir l'exception. Parce que des Bernard Hinault, il y en a pas tous les jours.
Merci Philippe de nous avoir appelé au 32-16.
Merci Philippe.
À bientôt.
Lucio Thierry, on va marquer une petite pause. Le 32-16, toujours pour poser vos questions sur le classement général ou alors sur cette victoire française, je le rappelle, d'Alexis Villermoz. Vous avez aussi le hashtag RMC Live. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
Il est 20h12 sur RMC et la Dream Team a le sourire parce qu'un Français a gagné la 8e étape du Tour de France, la victoire d'Alexis Villermoz. On est toujours avec Thierry Bourguignon et Luc Leblanc pour revenir sur cette 8e étape et on accueille au 32-16 Jacques. Bonsoir Jacques.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Jacques.
Jacques, tu voulais nous parler de Christopher Froome qui, je le rappelle, est arrivé bien sûr dans le groupe des favoris qui est toujours maillot jaune ce soir.
Ben oui, moi j'ai fait une petite analyse que j'aimerais, disons, que vous-même, j'aimerais solliciter votre avis. Froome a largement dominé, disons, la course dans la côte de Huy, jusqu'au bout, moins longue. Là, la côte du mur de Bretagne faisait 2 km. Il a essayé de faire exploser, disons, le groupe des favoris. Et finalement, je crois qu'il a plafonné et il s'est remis, disons, dans le peloton en se contentant de suivre. Voilà. Et par ailleurs, à plusieurs reprises, il m'est arrivé de voir Froome faire une accélération, lâcher, disons, ses collègues et progressivement se faire rattraper et parfois même dépasser. Je pense que ce qu'on a vu dans ces deux côtes, on ne peut faire aucun pronostic pour la montagne. C'est tout à fait autre chose, la montagne.
Ah oui, bien sûr. Mais d'autant plus qu'aujourd'hui, ça n'avait rien à voir avec la côte de Huy. Parce que c'était un pourcentage beaucoup plus facile et beaucoup moins long. Parce que le mur de Huy, c'est vraiment le mur avec des passages dans l'intérieur du virage à plus de 20%. Donc là, il était à son avantage et il l'a montré.
Voilà, alors que là, on était plus dans des pourcentages qu'on peut retrouver dans l'école. Oui. Avec une route en meilleur, un goudron en meilleur état, une route plus large. Moi, c'est mon analyse à moi. Je ne suis pas un spécialiste comme vous l'êtes, mais je trouve qu'il ne faut pas tirer non plus de plein sous la comète des performances de Froome actuellement.
De toute façon, on en saura beaucoup plus déjà mardi. Hein, mardi soir, on pourra dire, tiens, ben, c'est vrai que il est en grande forme, ou alors, ben,
déjà de finir la première semaine en étant leader du tour, c'est qu'il a la condition.
Non, mais ils ont la condition, hein, de toute façon.
Non, là, il est en grande forme, ça c'est incontestable. Mais je trouve que l'Inter peut être un peu vite les autres.
Mais
qui dans la vraie montagne, sont certainement, disons, pour moi, meilleurs. Avec la répétition des efforts dans l'école, la côte de Huy, fort pourcentage, distance de côte réduite. Bon, bah, quelqu'un qui est explosif, on a vu aujourd'hui, disons, Villermoz, peut tirer son épingle du jeu dans une succession de cols, c'est peut-être tout à fait la même chose. Et avec des pourcentages qui se rapprochent de ceux qu'on a vu aujourd'hui.
Bah, c'est les boss, là, les deux murs, en fait, c'est pour puncher. Hein. C'est ouais. Puncher. D'ailleurs, on voit, Sagan est encore là. Sagan dans un grand col, il sera pas là.
Voilà, mais Froome a plafonné aujourd'hui. Et c'est simplement, disons,
comment ça, il a plafonné aujourd'hui?
Ben, moi, je l'ai vu essayer, hein, j'écoutais les commentaires sur France 2, je l'ai vu essayer d'exploser, disons, le peloton des favoris, et finalement, ça commençait, disons, à avoir ses résultats, puis à un moment donné, il s'est remis dans le rang.
Oui, non, mais je pense pas qu'il ait voulu faire exploser le peloton ou quoi que ce soit.
Il était là, il s'est mis devant pour éviter
peut-être que les favoris n'attaquent. Il a préféré mettre un petit peu tout le monde dans le rouge, mais je pense pas qu'il ait plafonné. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup
celui
de
qui
monde
a plafonné,
qui aurait voulu.
C'est Nibali plutôt. Hein.
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de leaders qui auraient voulu plafonner comme Froome aujourd'hui. Quoi.
Nibali, il a perlé.
Moi, je trouve que Contador et Quintana, par exemple, bah, ils ont suivi normalement.
Ah oui. Non, merci, mais il y a pas de conséquences. Et on peut pas tirer des conséquences sur cette première semaine. Ça a rien à voir. Demain est un autre jour. Mardi est un autre jour.
C'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas trop s'avancer sur le résultat final du tour.
Merci Jacques de nous avoir appelé au 32-16. À bientôt.
Bonne soirée.
Bonsoir.
On a Christophe au 32-16. Bonsoir Christophe.
Ouais, salut les gars.
Salut mon pote Christophe.
Ouais, je vous avais appelé dans la semaine, on avait parlé des Français et tout ça. Et moi je voulais intervenir par rapport à la montagne qui va arriver
mardi.
Et ouais, effectivement, comme il disait Jacques, je pense qu'il faut quand même pas quand je vois le chantier qui les attend. Parce que quand même, il faut quand même qu'on regarde un petit peu le programme du tour. Mais là, les deux semaines à venir, c'est vraiment du solide, hein.
Ah oui.
Je pense que là, on peut pas se comparer aux autres tours. Cette année, les deux semaines à venir, ça pour certains, ça va pas être des secondes et des minutes. Hein, ils vont me prendre, mais ça va être colossal. C'est sûr et certain. C'est pour ça que faut peut-être. Moi, je pense que faut en garder quand même au niveau des commentaires et tout, parce que je pense qu'il y en a qui aimeraient y aller, qui aimeraient sortir, qui aimeraient. Mais les gars, ils savent très bien où ils vont. Hein. Donc à mon avis, il y en a, ils sont sur la réserve et.
Ouais, mais voilà, attention, je pense que sur ce tour, comme je l'ai dit dès le départ, celui qui prendra des risques, forcément, pour gagner, il faut prendre des risques.
Je suis d'accord avec toi.
J'espère qu'une chose, c'est que tous les leaders seront en forme. Et là, on pourra voir un grand spectacle.
Ouais,
plus ils sont nombreux, mieux c'est.
Tu sais, je me le dis aussi parce que c'est vrai que j'ai été voir le Giro cette année. Et ça va être compliqué de comparer aussi, parce que un mec comme Contador, il a le Giro dans les jambes aussi. On peut pas comparer quand même avec des mecs. Qu'on le veuille ou non, c'est pas que je vais y trouver des excuses si jamais il est pas dans le coup, c'est pas ça. Mais quoi qu'il en soit, il vient d'enchaîner le Giro, le mec.
Ouais,
et là,
mais
il est sur le tour. Froome, il a fait, enfin, c'est pas qu'ils ont rien fait, je te dis pas ça, mais des mecs comme Froome, Quintana, Nibali, ils étaient pas au Giro.
Oui, mais les mecs en forme, ils peuvent enchaîner les courses. Et il a su. Contador avait prévu d'enchaîner les deux grands tours. Donc, il a eu ce programme entre les deux grands tours de récupération. C'est peut-être aussi pour ça qu'on le sent un peu fébrile sur cette première semaine.
Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il en garde aussi, tu vois.
Oui, voilà. Non, mais de toute façon, on sait pas, on sait rien. C'est vrai que cette semaine, il fallait être là, comme on a dit. C'est la première semaine où on peut perdre le tour. On ne le gagne pas forcément, mais tout ce qui est perdu est difficile à aller chercher.
Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que quand tu regardes le parcours, bon. Tout est possible.
Ah bah oui, deux minutes, tu vois rien.
Je voulais juste rebondir sur un truc, c'est que, honnêtement, les gars, mais on se régale. On se régale la première semaine, mais ce Tour de France, mais c'est exceptionnel. Je trouve que c'est excellent à suivre et tout, c'est super. Et l'engouement qu'il y a autour de ça, je pense que nous, passionnés, vous, tout ça, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a des gens qui sont pas, c'est pas forcément leur truc, le vélo, mais. Même si c'est pas leur truc, ils sont à fond derrière le Tour parce que ça dégage quelque chose, le Tour. C'est fantastique et je trouve que c'est un monument au niveau sportif en France, le Tour.
C'est exceptionnel.
Les gars, il faut essayer de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se passe. Tout ce qui se passe en France, les événements sportifs et tout. Mais bien sûr qu'on est gâté, il y a des super trucs, mais tu te rends compte, dans le monde entier, le Tour de France, mais c'est exceptionnel. Je te dis. Et au-delà des commentaires qu'on peut faire, des résultats des Français, pas Français, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, le Tour de France.
Le barnum du Tour
Ouais, j'ai pas de mots, c'est énorme.
Merci Christophe, en tout cas.
Un petit coucou à mon pote Alexandre Géniès qui est dans le peloton.
Et de que je vais
féliciter, ouais, parce que c'est un super pote.
De la région,
moi j'habite à Rodez, donc vous êtes chez moi ce week-end.
Ah, à Rodez
Si tu veux, t'es pas loin de Brive. Si tu veux des bonnes adresses, Lucho, tu m'appelles.
Attends, il faut organiser un truc là pour la Lucho Mobile à Rodez.
Et ouais, mais le truc, si tu veux, c'est que samedi je pars parce que dimanche c'est l'étape du Tour.
Demandes à des potes, à la famille, je sais pas, moi.
Donc,
tu te débrouilles.
Vendredi.
Mais Lucho, c'est la capitale Brive ou quoi?
Non, mais parce qu'on n'est pas loin de Rodez.
Moi, je suis pas loin de Rodez non plus.
Parce que c'est mon pote, mais Alex Géniès, il a une chaîne Giro et Tour, les gars.
Comme quand t'adores.
Voilà. Et ils sont pas nombreux.
Merci Christophe.
Et en plus, il sera bien dans les Pyrénées et les Alpes.
Ouais.
À bientôt Christophe.
Merci, continuez les gars.
Salut Christophe. Hein. Merci. Fais passer le message, fais passer le truc.
Et Martial, c'est super d'entendre des gens euphoriques.
Ça fait plaisir. Tout à fait.
Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des critiques. Oh, le Tour, ouais, on s'est embêté. J'ai entendu encore ça cette semaine. Mais c'est terrible, les mecs qui s'embêtent devant le Tour alors que tous les jours il y a des rebondissements. Bon, malheureusement il y a des chutes mais ça fait partie de la course et c'est une belle course. Merci messieurs les organisateurs.
Très bien. Le 32-16 toujours ouvert.
Tu veux travailler au Tour, Cyril ?
Non, Thierry. Non, mais je suis trop content. J'ai toujours critiqué. J'ai toujours dit les dernières années, je m'éclatais beaucoup plus à regarder le Giro et la Vuelta parce qu'il y avait plus d'action et parce que il y avait tellement d'enjeux pour le Tour de France que les équipes étaient freinées par cet enjeu. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression que l'enjeu, eh ben, ils sont obligés de prendre des risques et par ce jeu-là, eh ben, on voit une belle course.
On va voir dans les Pyrénées.
Eh ben, j'espère.
C'est la prise de risque, elle est là pour tout le monde.
S'ils prennent pas des risques, eh ben, faut pas pleurer qu'ils ont pas le maillot, qu'ils aient pas le maillot.
32-16 ouvert pour poser vos questions à Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Le hashtag RMC Live aussi. On a Marie qui a réagi tout à l'heure au propos de Philippe. Entièrement d'accord avec Philippe. Les mœurs ont changé. Perrault a dû attendre 37 ans pour faire deuxième. Les contrôles font peur. Et puis, on a une question.
Perrault, il est arrivé tard dans le vélo. Attention, hein.
Ancien VTTiste comme Alexis d'ailleurs. Qui gagne aujourd'hui. Petite question de Slim Shady sur le hashtag RMC Live. Quels sont les favoris qui risquent de perdre du temps demain ?
Demain ?
Contre la montre, par équipe.
Tous les adversaires de des Contadors, ils risquent de perdre un tout petit peu. Les Nimbali risquent de perdre un tout petit peu. Et
Quintana, je pense, il a une bonne équipe.
Pareil, hein,
la Movistar, ils seront dans les trois, moi. Ouais. Non, ils perdront pas beaucoup, je pense.
Tu verras, Contador, ils feront un bon chrono aussi.
Donc en gros, c'est Chris Froome qui va
reprendre. Quintana peut remonter un peu au général demain par rapport au contre la montre par équipe sur déjà sur Nibali.
Van Garderen de BMC peut prendre le maillot demain
Oui.
Alors Van Garderen a 13 secondes de Christophe Froome, hein, donc c'est l'équipe BMC.
Ça sera la bataille entre les deux.
Contre l'équipe Sky.
Ouais. Exactement. Ça va être mano BMC Sky.
Et en plus, avant le départ du Tour, beaucoup ne voyaient pas la Sky en grosses conditions pour le Tour. Hein.
Ah bah sur le Dauphiné, rappelle-toi, ils ont fait un chrono très moyen. très
voilà,
très
non,
moyen.
Mais c'est pour ça que je te dis en début de tour, c'est quand même la Sky, c'est la surprise. Même Froome, tu vois.
Vroom, j'attends vroom. De voir.
Mais oui.
Thierry Luc, on a Raphaël au 32-16. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Salut Raphaël.
Bonsoir Raphaël.
Tu peux poser ta question, Raphaël, n'hésite pas.
Moi j'avais une question. Tout à l'heure vous parliez de nos jeunes coureurs, notamment Pinot, Barry, Bardet, pour la montagne, mais aussi pour le sprint, on a Demar, Cocard, Boulani. Mais par contre, je pense qu'on a un petit passage à vide, c'est sur les rouleurs. On a un gros problème de formation, je pense, en France, notamment sur les coureurs de contre-la-montre. Quand on voit que Sylvain Chavanel était 6 fois champion de France de contre-la-montre, est-ce qu'on n'aurait pas un souci dans la formation en France, notamment par rapport à ce style d'effort?
Bah après ça dépend, c'est les qualités, c'est intrinsèque, quoi. Je veux dire, on est rouleur ou on l'est pas, quoi. On est bon dans les chronos ou on l'est pas, mais après ça s'améliore. Après il faut voir un petit peu ce que Villermoz vaut dans les chronos. Après tout comme on s'est rendu compte que Pierre Roland c'était un espoir pour peut-être monter sur le podium tout tour, et puis au fil des années on s'est rendu compte que ben au chrono ça allait pas du tout. Après Thibaut Pinot, il s'est légèrement amélioré dans le chrono, mais c'est vrai qu'il a jamais fait fureur dans le chrono. Voilà, après il faut faire confiance aux jeunes. Alors là, moi, je sais pas du tout Villermoz ce qu'il vaut exactement dans le chrono, tout comme l'excellent Alaphilippe qui risque de faire le tour l'année prochaine. Après, ça ne peut être que des surprises. Mais encore une fois, il faut être doué au chrono. Le chrono, c'est un effort spécial. Hein. Il faut se faire mal. Il faut se battre contre soi-même pendant une heure, une heure et demie. Voilà, c'est un effort assez spécial. Et celui qui n'aime pas se faire mal et aller au-delà de la zone rouge, c'est vrai qu'il aura toujours des difficultés à faire des résultats dans un chrono.
D'accord. Mais ce que je voulais dire en fin de compte, c'est que si on est capable d'avoir de bons grimpeurs et de bons sprinteurs, est-ce que le mal n'est pas plus profond? Est-ce que dans nos épreuves chez les jeunes catégories, est-ce qu'on ne travaille pas assez ce style d'effort?
Ou alors il faudrait des épreuves qu'avec des fois avec un chrono à chaque fois dans les courses à étapes pour que les coureurs amateurs, espoirs et juniors puissent.
C'est vrai puissent, que les courses amateurs, il manque de chrono.
Cours junior et peut-être.
Luc,
ouais.
Luc, moi, je t'ai connu quand tu étais directeur sportif à Premier Rino, etc. Je sais pas, est-ce que toi de cette époque-là, est-ce que tu te souviens qu'il y avait beaucoup de contre-la-montre dans ces catégories-là?
Non, il n'y en avait pas beaucoup. Et d'ailleurs, les stages que je leur faisais faire un chrono à chaque fois.
On peut se rendre compte que par le passé, tous les coureurs qui ont pu marquer l'histoire du vélo étaient quand même des spécialistes du contre-la-montre, notamment dans Tour de France.
Mais c'est sûr. De toute façon, il y a peut-être un petit manque de préparation à ce niveau-là. Ça, c'est clair et net.
Bah, en tout cas, ça tombe bien cette année. Il y avait 14 kilomètres de contre-la-montre individuelle sur le tour.
Cette année, ça tombait bien, mais dans les années passées et à venir, à mon avis, on va rajouter plus de contre-la-montre.
Merci. Ouais, ben ça, c'est sûr.
Merci, Raphaël, d'avoir appelé au 32-16.
Merci, Raphaël.
À bientôt. Salut. Cyril, Thierry et Lucho, juste un petit message Lucho, on se quitte, mais juste un petit message, je sais pas ce que tu fais samedi prochain. T'as une petite invitation sur le hashtag RMC Live de Braise Nice. Il paie l'apéro au camping de La Blaquière aux Vignes, en Lozère, samedi. Voilà, dans une semaine.
Mais samedi dans une semaine, il faudra me le redire parce que là.
Bah écoute.
Lucho, tu notes.
Mais non, mais attends, je suis tellement déconnecté. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est jeudi alors qu'on est samedi, c'est ça?
Et on est quel jour?
On est bien samedi. Ouais, voilà, enfin, bon, je suis complètement déconnecté.
Victoire sur le tour, c'est normal.
Bah du coup, je vous dis à demain dimanche donc.
Demain dimanche.
Merci Thierry. Merci Lucho.
On est le 14 juillet aujourd'hui. C'est un Français qui a gagné, non?
C'est vrai, on a pris un peu d'avance. Merci Lucio, merci Thierry. À demain, on espère.
Salut.
Une belle étape et la bagarre au classement général. 20h28 sur RMC, restez avec nous. Dans quelques instants, nous on revient sur la bagarre et la victoire de Jimmy Vico sur 100 mètres au championnat de France. 9 secondes, 92 centièmes devant Christophe Lemaître.
RMC, Intégral Tour. RMC, Intégral Tour. Martial Fernandez.
20h31 sur RMC, l'intégral tour jusqu'à 21h. Avant de parler basket avec le joueur de l'équipe de France, Evan Fournier, avant d'ouvrir notre grande page football ce soir jusqu'à 23h, on sera dans quelques minutes avec le président de Lille, Michel Seydoux. Retour sur un des événements de l'après-midi et encore un Français en moins de 10 secondes sur 100 mètres.
RMC, France Olympique.
Fix de Châteaufort avec nous. Rebonsoir, Fix.
Rebonsoir, Martial.
En direct de Villeneuve d'Ascq pour les championnats de France avec, je le disais, Jimmy Vico à nouveau en moins de 10 secondes. Il avait fait 9 secondes 86 la semaine dernière au meeting du Stade de France. Il a fait 9 secondes 92 centièmes pour gagner le titre de champion devant Christophe Lemaître, Fix.
Ouais, le deuxième chrono de sa carrière, Jimmy Vico qui a réalisé le chrono qui était il n'y a pas encore si longtemps, il y a une semaine de cela, l'ancien record, le record de France de Christophe Lemaître, Jimmy Vico donc qui remporte ce titre de champion de France en 9,92 devant Christophe Lemaître en 10,07 et Emmanuel Biron qui complète le podium. Bien, tout simplement, Jimmy Vico a confirmé donc le beau chrono qu'il avait réalisé la semaine dernière au Stade de France et ce record d'Europe égalé en 9,86. Jimmy Vico qui a vraiment impressionné également, car maintenant il est capable d'aligner des chronos comme ça à répétition aux alentours, aux eaux des 9,90, et c'est de très très bon augure pour les mondiaux. Je vous propose d'écouter la réaction de Jimmy Vico.
Je me sens qu'il gicle vraiment, il a un bon temps de réaction, donc là je suis à côté pour un moment, je me suis dit oh, ça va pas là, donc essayer de mettre plus de cadence et enfin chercher à faire moins de 10. Je me suis dit que j'allais faire 9,90. 92, c'est déjà pas mal, quoi. Mon deuxième meilleur temps donc, de ma vie. Donc, maintenant, je vais me reposer un peu. Demain, il y a le 200. Là, il sera plus fort que moi. Donc, c'est à moi de faire en sorte de le suivre et essayer de le battre.
Voilà, Jimmy Vico qui avait calqué sa course sur celle de Christophe Lemaître. Hein, quand même, Fix, on sent que le duel existe. Quand
le duel a existé parce qu'on avait peur un peu qu'il y ait un trop gros écart entre Jimmy et Christophe, vu ce qu'avait réalisé Jimmy la semaine dernière et ce que Christophe était capable de faire, car Christophe était un peu en plein doute. Hein, ça faisait 15 jours qu'il n'avait pas couru. Il s'était blessé au championnat d'Europe par équipe. On savait pas trop dans quel état de forme il serait ici aujourd'hui. Et puis, on s'était dit qu'il avait peut-être pris un petit coup au moral après que le record de France perdu la semaine dernière, avec la performance de Jimmy Vico. Et bien, il y a eu vraiment une course, une bagarre entre les deux. Et ça, c'était plutôt rassurant. Mais pour revenir sur la performance de Jimmy Vico, je vous propose d'écouter Guillaume Tanon, son entraîneur. Guillaume Tanon qui est bien sûr qui était ravi de la course de Jimmy, et vous allez comprendre pour quelle raison il était également satisfait de la course de son élève, une nouvelle fois aux alentours des 9,90.
Il a cette espèce de mémoire musculaire qui lui fait répéter les courses à ce niveau-là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il le sent, il le dit. Tout à l'heure à l'échauffement, il m'a dit je sens que je peux faire 9,90. Voilà, il fait 92. Je crois qu'il a acquis pas mal de choses et il est capable de reproduire. Alors après, maintenant, Pékin, c'est encore très loin. On aura encore certainement pas mal de travail à faire et surtout d'essayer de gérer cet état de forme. Et puis, pourquoi pas le tirer encore vers des valeurs encore plus basses que ces 9,86 réalisés à Paris.
Voilà, Guillaume Tanon qui parle de Jimmy Vico, qui parle des championnats du monde, évidemment, à Pékin, fin août, qu'on suivra sur RMC. Fix, mais c'est vrai que Jimmy Vico, il envoie un deuxième signal à tout le monde là avec ses 9,92.
Ouais, c'est intéressant. Il rentre vraiment dans le gotha des vrais outsiders pour ces championnats du monde. On s'en rappelle, il avait disputé déjà une finale de championnat du monde. C'était en 2011 à Daegu. En 2013 à Moscou, c'était pas passé loin puisqu'il était vraiment passé à un centième de la qualif pour la finale. Jimmy Vico maintenant est quelqu'un qui compte, un sprinter qui compte sur la planète européenne bien évidemment, mais également mondiale, et il aura l'occasion de retrouver un peu le gratin du sprint mondial, notamment la semaine prochaine au meeting de Monaco avec un certain Justin Gatlin. Il a essayé Powell à Paris la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé, il n'était pas très loin. Là au France, il confirme son beau chrono la semaine dernière, et puis il retrouve Gatlin la semaine prochaine à Monaco avant de courir également à Londres. Il est sur les bons rails en route vers les mondiaux de Pékin, et Jimmy Vico a encore de la marge, donc c'est ça aussi qui est intéressant à voir puisque les mondiaux c'est dans un peu plus d'un mois et qu'il va encore bosser et encore travailler.
On va écouter le deuxième de la course, Christophe Lemaître, battu mais quand même avec le sourire parce qu'il fait 10,07, ce qui lui permet de faire les minima qui étaient 10,09 pour les championnats du monde. Et Christophe Lemaître est plutôt satisfait de sa course.
Ça fait plaisir de retrouver des vraies sensations de vitesse en compétition. C'est vrai que c'est ce qui me manquait un peu. Donc là, mais c'est vrai que pour la course, j'ai senti que voilà, tout se remettait en place progressivement. Je pense qu'il y a encore de la marge parce que bon, j'ai pas fait de vraies séances de sprint depuis ma blessure en Russie. Il y a mieux comme condition pour préparer le championnat de France, donc ça prouve qu'il y a encore de la marge.
Voilà, Christophe Lemaître et Lemaître et Vico, fixe, on les retrouve demain pour une sorte de revanche. Hein.
Exactement, alors
le 200.
Ça serait une autre physionomie, parce que ben, on le sait, hein, le 200 mètres c'est plutôt la course de Christophe, hein, c'est vraiment sa course de prédilection, et là, Christophe nous l'a dit hier, tout à l'heure plutôt en zone d'interview, il veut vraiment conserver son titre de champion de France sur 200 mètres, oui, mais Jimmy Vico maintenant, eh bien, est quasiment dans le meilleur état de forme de sa carrière, on peut le dire, avec ce qu'il a fait sur 100 mètres, et Jimmy Vico, lui aussi, eh bien maintenant, il peut se mêler franchement à la bagarre sur 200 avec Christophe, même si Jimmy, c'est pas, il a fait beaucoup moins de 200 mètres dans sa carrière que Christophe Lemaître. Jimmy Vico qui, bien clairement, vise une performance, une grosse performance demain, et pourquoi pas sûrement un chrono sous les 20 secondes, même si on verra si les conditions météo sont les mêmes qu'aujourd'hui. Mais si les conditions sont normales, un chrono sous les 20 est totalement envisageable pour Vico, et à ce moment-là, ben Christophe Lemaître aura peut-être quelques soucis à se faire sur 200 pour garder ce titre de champion de France qui lui tient tant à cœur.
Et puis je rappelle qu'il y a d'autres minima qui ont été réalisés aujourd'hui sur 100 mètres haies par Cindy Billot qui a fait 12 secondes 83 en série avant de faire 12 89 en finale et pour obtenir ce titre. Merci Fix, on se retrouve demain après-midi pour un programme très alléchant. On va ouvrir une page basket maintenant sur RMC, radio officielle de l'Euro basket, et on va écouter Evan Fournier qui est avec nous, le joueur de l'équipe de France, sélectionné par Vincent Collet, un des 16 joueurs sélectionnés par Vincent Collet pour préparer cet Euro de basket. C'est en France et c'est au mois de septembre. Bonsoir Evan.
Bonsoir, bonsoir.
Alors Evan, pas encore dans la préparation collective avec les Bleus, ça va démarrer dans 10 jours maintenant. Est-ce que ça veut dire que tu te sens en vacances, toi, en ce moment ?
Non, les vacances, c'est fini depuis très longtemps maintenant. je me prépare individuellement depuis maintenant plus d'un mois. Donc non, les vacances, c'est très loin.
Ça veut dire que préparation individuelle, c'est toi qui décides ce que tu fais ou le coach et le staff vous ont laissé à tous les joueurs des petites consignes pour la préparation ?
Le staff de l'équipe de France ?
Oui.
Non, bah vous savez, il y a Vincent Collet qui sort d'une finale de championnat de France, donc je pense qu'il a vraiment besoin de s'aérer l'esprit. Hein. La préparation, c'était vraiment plus par rapport à mon club, avec Orlando. Donc j'ai travaillé des points spécifiques avec eux. J'ai notamment deux coachs qui arrivent la semaine prochaine. Donc pas de contact sur quoi faire avec l'équipe de France pour l'instant.
Alors l'objectif à moyen terme pour toi Evan et pour les joueurs évidemment, c'est cette préparation pour l'Euro qui démarre le 5 septembre pour la France, premier match face à la Finlande à Montpellier. Est-ce que tout le monde y pense déjà ? Est-ce que toi tu l'as évidemment dans un coin de ta tête en ce moment ?
Ce match contre la Finlande
En tout cas l'Euro.
Bah c'est inévitable. Je pense que là on est à quasiment une semaine d'échéance, donc forcément tout le monde pense à cette préparation, tout le monde pense à cet Euro. C'est à domicile, on est champion en titre, on a fait une belle performance l'année dernière au championnat du monde. Donc oui, bien sûr, je pense que tous les joueurs on est tous excités. Après on sait que c'est un long processus, hein, c'est une longue préparation, et puis même le championnat d'Europe en lui-même, c'est un tournoi qui est très long, donc il faut être très patient, quoi.
Ouais. Alors 16 joueurs présélectionnés par Vincent, il en restera 12 à l'arrivée, hein. Evan, est-ce que ça, toi, tu te dis si par malchance, comme en 2013, tu te retrouvais pas dans la sélection finale, est-ce que ça te traverse l'esprit parfois ?
Non, je pense pas, parce que j'ai un statut différent, j'ai deux saisons de NBA en plus, je sors d'une très bonne saison. Non, j'y pense pas. Puis de toute façon, ça sert à rien d'y penser, parce qu'il faut contrôler. Ce qu'on peut contrôler justement, donc moi je vais me donner à fond, je vais faire mon travail et puis ça va le faire simplement.
Alors un autre statut par rapport à 2013, tu as 22 ans, Vincent Collet au moment de la sélection avait dit Evan il incarne l'avenir. Quand tu entends ça, tu te dis forcément qu'il y a de quoi faire sa petite place dans ce groupe pour du long terme en équipe de France.
Bah, de toute façon je suis pas là pour faire seulement 2-3 compétitions, moi je suis là pour rester toute ma carrière en équipe de France, donc forcément je suis d'accord avec Vincent, j'ai apprécié ce qu'il a dit, donc voilà.
Alors vous avez l'habitude hein, dans le groupe de longues préparations comme ça, mais ça commence le 20 juillet pour vous amener au mois de septembre, c'est long tout ça, ça paraît long quand on est de l'extérieur comme ça.
Bah pas que de l'extérieur, hein, de l'intérieur aussi c'est très long.
C'est vrai.
Bah oui, vous savez, on a très peu de repos, surtout que cette année il y aura beaucoup de déplacements, donc ça va pas être très évident à gérer. Mais c'est quelque chose de normal parce qu'il faut faire une belle tournée, parce que on a très beaux supporters, donc il faut vraiment faire un petit peu le tour de la France. Mais non, c'est très long, hein, vous savez, pour les organismes, c'est fatigant, on a dessus des grosses saisons, donc il va falloir faire attention à se donner à fond, mais aussi faire de la bonne récup.
Alors quand on est un joueur comme toi qui évolue en NBA, du côté d'Orlando, on joue plus rarement devant le public français. Là, l'événement en France, ça met une pression supplémentaire.
Je pense que inévitablement oui, ça met une pression supplémentaire. Je pense qu'on s'en rend pas tous compte maintenant, mais peut-être une fois sur le terrain, ce sera différent. Mais en tout cas, ça rajoute aussi de l'excitation supplémentaire, ça rajoute de la motivation supplémentaire. Donc moi, je vois beaucoup de positifs. Hein. La pression, il faut savoir s'en servir positivement et non pas se bloquer. Donc voilà, il faudra tout simplement prendre avantage de jouer devant nos fans, simplement. Mmh.
Juste pour en revenir à la NBA aussi, Evan, il y a eu beaucoup de mouvements. C'est la période ouais. où ça bouge en NBA. Toi, c'est Orlando et ça reste Orlando pour la saison prochaine.
Bah, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'en NBA, on sait jamais. Hein. Je peux me faire trader là en ce moment même. Donc non, vous savez, la NBA, ça bouge dans tous les sens à n'importe quel moment, sans prévenir. J'en ai fait des frais l'année dernière. Nico vient d'en faire les frais. Donc, c'est vraiment une preuve que ça peut tomber dessus à n'importe quel moment.
Ouais, Nicolas Batum, hein, évidemment. Ouais. Transféré il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Evan Fournier, d'être passé sur RMC. Et donc, le rendez-vous avec les copains pour l'équipe de France, 20 juillet à l'INSEP, hein, dans 10 jours.
Exactement. Merci à vous.
À très vite. Au revoir.
Au revoir.
Allez, on va continuer, on va ouvrir la page foot maintenant, ça va faire plaisir à Mister Cardwell qui l'attendait, cette page foot sur le hashtag RMC Live. Elle arrive dans quelques instants, tout sur les transferts et puis Michel Seydoux avec nous sur RMC, le président de Lille.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
20h46 sur RMC, évidemment une journée particulière avec la victoire d'un Français sur le Tour de France, Alexis Villermoz, qui s'impose au mur de Bretagne. On en a longuement parlé. Une journée aussi marquée par pas mal de changements et pas mal de mouvements sur le marché des transferts.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Bonsoir Damien Gozioso.
Bonsoir Martial.
Alors Damien, des mouvements et Manchester United qui nous fait le gros coup.
Oui, puisque Sébastien Schweinsteiger, l'ancien taulier du Bayern Munich et capitaine de la Mannschaft que les Reds devraient accueillir dans les heures à venir, Karl-Heinz Rummenigge a confirmé le départ du joueur. Manchester a officiellement annoncé de son côté l'arrivée du milieu de terrain pour 3 saisons. Dernière information, Manchester qui officialise également l'arrivée de Matteo Darmian, le latéral en provenance du Torino.
Alors ça fait 2 arrivées à Manchester, mais il y a aussi un départ, celui de Van Persie.
Oui, voilà, l'attaquant néerlandais a disputé 27 matchs cette saison et inscrit 10 buts, bien loin de son rendement lors de la première saison à Manchester ou bien de celle disputée sous les couleurs d'Arsenal. Il va rejoindre Fenerbahçe. Le président du club a d'ailleurs déclaré une nouvelle étoile vient rejoindre la constellation du Fenerbahçe.
Arsenal qui serait en train de préparer une offre pour le Lyonnais Alexandre Lacazette.
Arsène Wenger n'a jamais caché son admiration pour le meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée. Hubert Fournier, l'entraîneur de Lyon, n'a pas complètement fermé la porte à un départ de la pépite. Lacazette a été supervisé à plusieurs reprises. Arsenal a de l'argent à dépenser, affaire à suivre donc.
L'Olympique de Marseille et l'ancien Marseillais maintenant, Rod Fanny, qui a choisi son nouveau club.
Il a signé un contrat d'un an avec le club qatari d'Al Arabi. Le défenseur de 33 ans était en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille.
La Ligue 1 toujours, Monaco qui se renforce en attaque.
Le club annonce l'arrivée en prêt de l'attaquant espoir portugais Elder Costa, formé au Benfica, alors qu'une autre arrivée se fait de plus en plus probable, celle de Stéphane El Shaarawy, l'international italien de l'AC Milan. Milan souhaite que le transfert se fasse sous forme de prêt avec une option d'achat de 17 millions d'euros. El Shaarawy devrait passer sa visite médicale en principauté lundi.
Et puis le mercato, ça existe aussi pour les entraîneurs avec Evian qui tient son nouveau coach.
Oui, c'est Safet Susic qui va prendre en main le club. Le président de l'ETG l'a confirmé au Dauphiné Libéré jusqu'en novembre dernier. Susic était le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine.
Merci Damien Gozioso pour ce Mercato Show. Il est 20h48 sur RMC et on accueille maintenant Michel Seydoux, le président du club de Lille. Bonsoir Michel Seydoux.
Bonsoir.
Alors Michel Seydoux, période de Mercato en ce moment pour les présidents de Ligue 1. C'est une période compliquée à vivre pour un président. Ça, c'est une période que vous aimez bien ou pas trop?
Je veux pas dire que je l'aime ou je l'aime pas. Je veux dire qu'elle est indispensable. Donc quand elle est indispensable, ben écoutez, on s'y adapte. Donc je m'adapte.
Et là, vous en êtes où alors par rapport à ce recrutement et à ces départs? Il y a eu quelques, quelques ventes. La dernière avec le départ d'Adama Traoré, un des espoirs du club. Traoré qui part, il n'y avait pas d'autre choix pour Lille que de le laisser partir.
Écoutez, si le football français est malade, j'en suis pas responsable. Mais je suis responsable de la bonne santé de mon club. Donc lorsqu'il y a des offres qui sont difficilement refusables et que le joueur, après des performances, reçoit aussi des offres à titre professionnel assez importantes, c'est très très compliqué de ne pas le laisser partir. Mais bien entendu, le supporteur que je suis aurait préféré qu'il reste. Mais le président responsable que je suis aussi, malheureusement, a fait un choix, et avec le choix qui est d'avoir une bonne santé financière.
Ça fait du bien aux caisses du club, c'est ça que vous nous dites?
Je pense qu'il est indispensable d'être en bonne santé financière, parce qu'on ne peut pas réagir sinon, et on ne peut pas recruter si on n'est pas en bonne santé.
Et alors cet argent, est-ce qu'il va vous servir à faire venir du monde aussi? Parce que on lit des petites interviews de votre entraîneur, Hervé Renard, qui dit qu'il a envie de faire venir 4 à 5 joueurs. Ça va dépendre de quoi, toutes ces éventuelles arrivées?
Eh bien écoutez, il est évident que maintenant, on va se préoccuper des arrivées. Et on travaille très très de façon main dans la main avec Hervé Renard pour trouver les bonnes personnes au bon poste. Le chiffre de 3 ou 4 arrivées me paraît un chiffre minimum.
Alors vous parlez des bonnes personnes au bon poste. Il y en a une personne que vise particulièrement Hervé Renard, en tout cas un profil de joueur qui lui plaît, c'est Jordan Ayew. Il nous dit « je vais pas lâcher le morceau ». Vous le suivez sur cette affaire Ayew?
J'aime beaucoup l'expression « je vais pas lâcher le morceau », parce que c'est une bonne expression et ça prouve son talent et en tout cas sa manière d'être dans notre projet. Bon après, il faut voir si c'est raisonnablement faisable. Mais nous travaillons sur plein de dossiers, beaucoup de dossiers. Celui-là est plus médiatique que d'autres, mais croyez-moi, on va essayer de trouver ce qu'il faut, parce qu'il y a aussi d'autres postes à pourvoir.
Alors, pour en revenir à ce cas Jordan Ayew, Michel Seydoux, raisonnablement, ça veut dire quoi pour vous? Vous êtes en train de négocier avec le joueur, avec le club?
Pour l'instant, je ne vais pas vous donner d'informations quelconques, puisque nous sommes dans un métier très concurrentiel et une période extrêmement concurrentielle. Ouais. Ça veut dire que c'est un dossier que nous suivons. Voilà, je peux vous dire ça d'une façon relativement langue de bois.
Très bien, on va garder ça pour ce qui est des éventuelles arrivées. Côté vente, il y a encore des joueurs qui ont des bons de sortie du côté lillois?
Écoutez, on n'a plus aucun bon de sortie. Maintenant, il y a ici des opportunités pour certains joueurs qui ne seraient pas retenus ou qui ne seraient pas essentiels pour Hervé Renard se présentaient. Mais ce serait des départs remplacés, ce ne serait pas des départs pour des départs. Et a priori, Hervé Renard est arrivé il y a assez peu de temps. Il est en train de prendre contact avec l'effectif, le connaître un peu mieux avant de faire des choix. Et n'oublions pas que le mercato, il ferme que le 31 août.
Hein. Mais il y a encore un mois et demi pour réfléchir à tout ça. Tant qu'on vous tient sur la main sur RMC, Michel Seydoux, président de Lille, je m'adresse au président d'un club de Ligue 1 avec la Ligue qui a acté, cette fois c'est définitif, 2 descentes en Ligue 2 et 2 montées seulement en Ligue 1 dès la saison prochaine. Vous pensez quoi de la façon dont ça s'est passé? Parce que on a l'impression que tout le monde était loin d'être d'accord là-dessus.
Alors, sur la forme, on peut avoir beaucoup d'hésitations. Moi, je trouve que la brutalité n'est pas une forme idéale. Je préfère, bien sûr, le consensus qui peut avancer. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est la réorganisation générale de la gouvernance du foot professionnel en France. Et j'espère que cette action, un peu brutale peut-être, va permettre de redistribuer les cartes et de refaire une gouvernance tout à fait adaptée au monde d'aujourd'hui et non plus une gouvernance qui date des années 90 et qui est totalement dépassée.
Mais vous comprenez les clubs de Ligue 2 qui se sentent un petit peu floués?
Mais je comprends forcément qu'il y ait toujours, quand une réforme est un peu brutale, il y a toujours ceux qui sont contents et ceux qui sont mécontents. Il n'y a pas une réforme dans un pays où il y a en général le consensus. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça permette un vrai dialogue de reconstruction. Voilà, c'est plus un déclencheur d'une opération que j'espère, en tout cas.
Michel Seydoux, vous savez que le poste de président de l'UCPF va être vacant avec le départ de Jean-Pierre Louvel. Il se murmure que vous seriez peut-être candidat, oui ou non?
Non, je suis candidat à rien. Je suis candidat pour un football plus mieux organisé. Si je peux être utile un jour quelque part, j'essaierai de l'être. Mais pour l'instant, il n'y a aucune envie personnelle de prendre un poste. Surtout que je pense qu'il faut, dans cette réorganisation, repenser aussi le fonctionnement du CPF.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'UCPF, ça met avant tout un syndicat. Et que les décisions, les grandes décisions, elles doivent se prendre à la Ligue, qui est la maison du foot professionnel.
Donc, faut répartir les rôles entre la Ligue et le syndicat, en fait. C'est ça que vous nous dites.
C'est peut-être une piste de travail que j'aimerais en tout cas bien ouvrir avec d'autres collègues.
Merci Michel Sédoux d'être passé sur RMC. À bientôt.
Merci à vous. Bonne soirée.
Bonne soirée Michel Sédoux. Si vous êtes supporter lillois et que vous voulez réagir aux propos de Michel Sédoux, le président de votre club, n'hésitez pas, appelez-nous au 3216 ou alors vous avez le hashtag RMC Live. On a Eric McLoufi sur le hashtag RMC Live d'ailleurs qui nous dit Obadi, c'est très fort, bien joué le LOSC. Et puis on a Mehdi qui nous a appelé au 3216. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Marcel, bonsoir monsieur.
Mehdi, qu'est-ce que tu penses des propos du président de Lille, Michel Sédoux ?
Encore une fois, c'est de la langue de bois, quoi. C'est assez confus, ça rassure personne. Après, on n'est pas non plus dans une période où on a pu être la saison dernière à se dire on va peut-être finir par descendre au vu des performances qui étaient assez inquiétantes. Au niveau du mercato, je suis pas totalement convaincu parce que faire venir des joueurs comme on a pu avoir, Botteac, c'est sympa, mais pour ce qui est du reste, je trouve pas ça fou personnellement. On perd des joueurs comme Gueye, Traoré. C'est pas, enfin pour moi, c'est une bonne vente parce que quand on voit qu'on arrive à en toucher 12-13 millions de la part de l'AS Monaco pour un joueur qui a jamais vraiment intégré l'effectif pro à 100%, c'est quand même une bonne vente qui était nécessaire. Mais après, j'ai du mal. Ça fait beaucoup de changements, beaucoup de pertes assez importantes pour l'effectif. Maintenant, je suis curieux de voir ce qui va se passer à l'avenir. Par exemple, si on peut récupérer Jordan Ayew, c'est vrai qu'une doublette Ayew Boufal, ça peut être intéressant. Mais je suis pas complètement serein pour la saison à venir.
Merci beaucoup Mehdi de nous avoir appelé au 32-16. Tu parlais de Botteac d'ailleurs, Mehdi, il a marqué hein, ce soir, match amical contre Boulogne, victoire de Lille 2-1, club de National. Bon, c'est des matchs de tout début de saison, on va pas en tirer de grandes conséquences, hein, Mehdi, là-dessus.
C'est clairement, on verra.
Merci beaucoup Mehdi pour nous avoir appelé au 32-16. Un autre résultat d'un match amical, tiens, ce soir, Montpellier qui a battu Mende, Montpellier de notre membre de la Dream Team, Roland Courbis, 7-0, les buteurs montpelliérains, Cornette, Mounier, Martin, Camara qui a marqué deux fois, Mounier en a mis deux aussi, et puis Jissi, donc victoire à Mende, face à Mende du club de Ligue 1 de Montpellier-Lille. On va en parler aussi dans l'after, dans quelques minutes, avec Guillaume Laniel. Salut Guillaume.
Salut Martial, salut à tous.
T'as un programme chargé. Hein.
Oui, on va parler du LOSC, effectivement. On entendait à l'instant un supporter pas franchement optimiste. On va en parler. C'est vrai que Lille a bien vendu. Mais quid du sportif, on en parlera avec François Manardo et puis Chérif Guémour. On évoquera également le FC Barcelone qui est en train de bâtir une équipe extrêmement compétitive la saison prochaine avec l'arrivée il y a quelques jours d'Arda Turan. Le mercato chaud, évidemment. L'Angleterre, vraiment un tremplin pour les Français. Quand on voit Stambouli ou Rémi Cabella cette saison, on peut en douter. On se posera la question. Le talk fiction, ça aussi c'est une petite tradition dans l'after, les infos du jour. Et puis le quiz en fin d'émission, évidemment, sur dans l'after, on vous attend nombreux sur le 3216 et sur le hashtag RMC Live pour l'after de 21h à 23h.
Et on a déjà Bi sur le hashtag RMC Live, supporter lillois, qui nous dit mercato très intelligent de Lille. Je sais pas si c'est de l'humour. Réagissez, 3216
on en reparlera.
Pour le hashtag RMC Live.